Waouh, ça met la patate pour démarrer ce webcast. Bonjour à toutes et à tous. On est plus de 1100 personnes inscrites à ce webcast. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du reporting de durabilité qui concerne biodiversité, écosystème, comprendre, agir, mesurer et reporter, le SRS E4 comme levier de transformation. Bienvenue à tous. Nous vivons sur la biodiversité ce que nous avons vécu sur le climat, le rendez-vous international de la COP, COP21 avec l'accord de Paris, COP15, l'accord de Kunming-Montréal, les groupes d'experts du GIEC sur le climat, nous avons l'IPBES pour la biodiversité, on connaît la TCFD, nous avons la TNFD, on connaît SBT, Science Based Target pour le climat, qui est aujourd'hui complété par SBTN for Nature. La perte de biodiversité, la crise sur les ressources représentent deux des 10 principaux risques relevés lors du dernier Global Risk Report 2024 du World Economic Forum à horizon 10 ans. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la perte de biodiversité et l'effondrement des écosystèmes est considéré comme l'un des risques mondiaux qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie. Je ne sais pas s'il fallait en rajouter, mais nous avons aussi le rapport 2023 d'AXA qui place les risques liés à la biodiversité et aux ressources naturelles comme le risque le plus élevé à moyen et long terme. Aussi, selon le Forum économique mondial, on a quelques chiffres assez intéressants qu'on n'avait pas auparavant. La valeur des services écosystémiques rendus par la nature à l'économie mondiale a été estimée entre 125 000 et 140 000 milliards de dollars par an, soit finalement plus d'une fois et demie le montant du PIB mondial. Donc, comprendre le sujet, en évaluer la portée, les risques et les opportunités au niveau de chaque entreprise, c'est devenu et ça devrait devenir aussi stratégique finalement que les questions climatiques. On va se poser des questions sur les impacts, risques et opportunités. Alors, on va revenir sur tout ça. Vous allez voir s'afficher le programme. Donc, on va démarrer hein, par réexpliquer les enjeux de la biodiversité. On va revenir sur toutes ces réglementations qu'on a de plus en plus, aussi des frameworks qui sont volontaires. On va s'arrêter sur la CSRD et ce qui anime beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment avec le SRS E4 sur la biodiversité, et comment finalement on profite de cette CSRD pour développer sa stratégie sur les questions de biodiversité. Alors, je voulais vous préciser que vous avez la possibilité, et n'hésitez pas, à poser vos questions dans le chat. On a prévu de garder du temps à la fin du webcast pour y répondre, à peu près 15 minutes pour y répondre. Alors, je suis très heureuse de vous présenter nos intervenants. Hein, ce rendez-vous PwC a été préparé en collaboration entre les équipes PwC et les équipes de CDC Biodiversité. Donc, nous aurons Sophie Rosso et Joey Goldbraun côté PwC. Et João et Pereira de Fonseca, j'ai essayé de bien le prononcer, et Justine Galperne de CDC Biodiversité, un grand merci à eux. Ce webcast est la suite logique de notre cycle de conférences sur le reporting de durabilité qui a été initié maintenant il y a 3 ans. Tous les épisodes ainsi que nos lettres d'actualité sont disponibles sur le site PwC Reporting de durabilité. N'hésitez surtout pas à aller voir et revoir ces webcasts en replay. Les prochains épisodes, le 3 avril en partenariat avec SAP et MSG Global sur les outils existants permettant la préparation du reporting CSRD. Et le 25 avril, un retour d'expérience sur les premiers éléments de mise en œuvre en termes de gouvernance, de gap analysis, d'analyse de matérialité, mais aussi les conséquences sur la fonction finance et le contrôle interne. Aussi, tout un programme. Donc, je vais maintenant laisser Justine nous rappeler ce que l'on entend par biodiversité et les enjeux associés pour les entreprises. Bon webcast à tous. Bienvenue, Justine.
Merci, Émilie. Bonjour à tous et toutes. Donc, effectivement, il faut s'accorder dans un premier temps sur ce qu'on entend par la biodiversité, qui est un terme relativement récent, puisque la notion s'est popularisée dans les années 90 avec le sommet de la Terre de Rio. Et c'est en réalité un mot valise qui est composé de diversité et de biologique, sans grande surprise. et qu'il faut comprendre comme l'ensemble du vivant dans toute sa diversité, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand, commencer par les biomes, les biosphères, tous les végétaux, insectes, champignons, autres bactéries, virus, bref, tout ça va composer le vivant. Et l'UNESCO, donc lors de la Convention sur la diversité biologique en 2010, a établi une définition qu'on vous a mise à l'écran. De cette définition, il faut retenir que la biodiversité, c'est donc outre la variabilité du vivant, comme je viens de la décrire, c'est différentes composantes qui sont représentées sur l'illustration de droite. Donc ces composantes, c'est la diversité génétique, la diversité spécifique entre les espèces et leurs populations, et la diversité des écosystèmes. Et donc ça, c'est l'interaction du vivant avec leur milieu physique. Et maintenant qu'on est tous et toutes au clair sur notre sujet, eh bien, on est en droit de se demander ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet important et pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup. Et ce qui fait l'importance de la biodiversité, c'est que l'équilibre des écosystèmes, donc tous les écosystèmes dans lesquels on évolue au quotidien, où on voyage, ou aussi dans lesquels on produit, ils dépendent de la santé et de leur équilibre grâce à une forte diversité biologique. Et donc, il faudrait presque voir les écosystèmes comme une montre où tous les rouages représenteraient le vivant et toutes les composantes du vivant jouent un rôle très précis. Donc, s'il manque un rouage ou si un rouage est grippé, impossible d'avoir l'heure sur notre montre. Donc, c'est pareil sur les écosystèmes. Si le vivant est trop perturbé pour interagir correctement avec son milieu, il dysfonctionnera. Sauf que nos sociétés, elles dépendent du bon fonctionnement des écosystèmes et, parce qu'ils nous rendent de nombreux services qu'on appelle les services écosystémiques. Et c'est l'équilibre des écosystèmes qui est primordial pour la qualité des services qui sont rendus. Donc, si je parle de production agricole, d'épuration de l'air, décomposition de déchets organiques ou de stabilité des sols, en fait, là, je parle de services écosystémiques. Donc, c'est des choses qui nous semblent tellement acquises qu'on ne les voit plus du tout. Et donc, ces services écosystémiques, on les caractérise en quatre types en fonction de leur nature. On a en premier lieu les services de production primaire. Donc là, c'est vraiment la production de ressources par la nature, donc tout ce qu'on va pouvoir prélever directement dans les écosystèmes, genre les fruits et les légumes. On a ensuite les services de support. Donc là, c'est tous les services qui sont essentiels aux services de production. Pour continuer sur l'exemple des fruits et légumes, pour qu'ils poussent correctement, il nous faut un sol riche en nutriments et relativement stable. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les services de régulation. Ici, c'est l'ensemble de tous les processus par lesquels les écosystèmes maintiennent leur équilibre et l'équilibre de leurs fonctions. Donc là, le meilleur exemple, ça serait peut-être le cycle de l'eau, et il est aussi bien connu par tout le monde, mais du coup, c'est vraiment la représentation typique des services de régulation. Et en dernier lieu, il y a les services culturels, donc eux un petit peu plus insidieux, mais pas moins importants. C'est des services dont on profite lorsqu'on va randonner dans de beaux espaces ou qu'on pratique des sports d'hiver, par exemple. Et c'est aussi particulièrement important pour certaines populations qui puisent leur spiritualité de la nature. Bref, donc, nos sociétés et notre économie dépendent fortement des services rendus naturellement et des organismes comme l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC pour le climat. On peut chiffrer quelques exemples. Donc, pour continuer sur le cycle de l'eau, la régulation, la régulation de tout le cycle a été chiffrée à 2,3 milliards de dollars par an. Et par exemple aussi sur les services culturels, les parcs et les réserves naturelles, eux, dégagent 600 milliards de dollars par an grâce aux visites et aux activités qui sont prévues sur site. Mais on peut aussi penser aux produits régionaux et appellations d'origine protégée qui sont génératrices de valeur, donc non seulement grâce à la reconnaissance du savoir-faire, mais aussi avec l'écosystème de production dans lequel s'inscrivent ces différents produits. Donc, tous ces services-là, finalement, ça se monnaie. Et Émilie l'a dit en introduction, il y a plusieurs études qui ont chiffré les dépenses qu'il faudrait avoir pour combler tous les services écosystémiques si jamais ils venaient à dysfonctionner complètement. Et ça représente 1,5 fois le PIB mondial. On sait aussi par les études que il y a 55% du PIB mondial qui dépend directement des écosystèmes. Donc, ça représente 58 trillions de dollars. Donc, aujourd'hui, même si ces services ils sont gratuits, ça nous donne quand même un ordre de grandeur de ce que ça coûterait si on devait reproduire artificiellement tous ces mécanismes. Et avec le chiffre de 1,5 fois le PIB, le constat, il est sans appel. On n'aurait vraiment pas les moyens de le faire dans les conditions actuelles. Donc, sans biodiversité en bon état, il n'y a pas, enfin, l'activité économique telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle serait complètement déstabilisée. Et malheureusement, ces services, ils sont de plus en plus menacés. Et pour ça, je vais laisser la parole à Joao pour nous l'expliquer.
Merci Justine. Et effectivement, une fois qu'on a compris les bases et enfin l'importance de la biodiversité, on peut s'attaquer au problème et ça n'aura échappé à personne. Le déclin de la biodiversité est un sujet d'ampleur aujourd'hui. Ça monte très vite et ça devient vraiment une priorité à tous les niveaux de la société. Les trois quarts de la surface terrestre sont significativement altérés par les activités humaines. La déforestation, par exemple, elle s'étend de 10 millions d'hectares supplémentaires tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on perd à peu près la surface, enfin, l'équivalent de surface de l'Islande en surface forestière, selon la FAO. Et puis, les espaces sont altérés tellement profondément que certaines espèces n'ont plus de quoi prospérer. Et l'équilibre des écosystèmes dont parlait Justine à l'instant est menacé. Et donc, on est à un point aujourd'hui, on parle d'extinction de masse. D'ailleurs, le graphique à droite montre l'accélération des extinctions d'espèces avec un décrochage qui est assez frappant à partir du 20e siècle et que l'on raccroche à l'essor de l'industrialisation. Et cette extinction, elle ne concerne pas du tout que la biodiversité remarquable, du genre les baleines ou les pandas. Et ce n'est pas la disparition du dodo ou du rhinocéros blanc à l'état sauvage qui est structurellement grave pour la biodiversité. Évidemment, c'est grave en termes de patrimoine génétique, mais c'est surtout la biodiversité invisible et la biodiversité structurelle où on voit les plus gros risques. Et par exemple, je pense aux pollinisateurs sauvages, aux champignons, à toutes les bactéries qui sont dans le sol, qui participent à la dégradation de la matière et à la fixation du carbone dans les sols, les planctons qui constituent la base de toute la chaîne alimentaire marine. En fait, tous ces micro-organismes, toute cette biodiversité est extrêmement importante et son déclin, en fait, c'est les maillons les plus sensibles et leur déclin peut vraiment avoir des conséquences potentiellement, enfin, sans cette fondation, le système entier pourrait progressivement s'écrouler. Ce phénomène a un impact concret sur les économies. Je reviens rapidement quand même sur ces chiffres parce que c'est quand même assez crucial de s'en rendre compte. La perte de biodiversité aujourd'hui, c'est un risque matériel, mais il l'a dit au début, qui pèse sur plus de 50% de la valeur des entreprises listées et aux 19 principales bourses d'après une étude de PwC. Le coût estimé, encore une fois, des dommages causés aux écosystèmes est estimé à 10 trillions de dollars sur l'économie mondiale d'ici 2050. Et l'insuffisance, par exemple, sur un exemple précis, l'insuffisance en approvisionnement et assainissement de l'eau, en lien avec le service de régulation des cycles de l'eau dont Justine parlait à l'instant, correspondrait à une perte annuelle de 260 milliards de dollars liée aux dépendances à ces services de l'eau. Et donc, ce sont des exemples des effets financiers que les entreprises doivent anticiper dans la construction de leur modèle d'affaires. Et puis, le dernier élément un peu de ce début de présentation, c'est de comprendre, face à ce constat de déclin massif de la biodiversité, de se poser la question, pourquoi est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui s'est passé sur les 100-150 dernières années? Et la réponse simple est les activités humaines. Donc finalement, là, à l'écran, vous avez le travail, enfin les cinq pressions qui ont été identifiées par l'IPBES. Donc, il a dit au début, l'IPBES est l'équivalent du GIEC, mais sur le sujet de la biodiversité, et qui identifie cinq pressions qui sont exercées par les activités humaines et qui sont les drivers, quelque part, de, ces extinctions de masse. La pression la plus importante, c'est l'occupation des sols. Enfin, c'est le premier, les changements d'occupation des sols, d'ailleurs. C'est le premier facteur de pression sur la biodiversité c'est notamment l'intensité d'artificialisation des sols. On disait à un moment que 75% des surfaces terrestres étaient altérées profondément par les activités humaines, aussi par les déforestations. Et par exemple, on a l'agriculture qui est le principal moteur de l'artificialisation des sols. Que ce soit pour l'alimentation humaine, pour nourrir le bétail, demain avec ce qui se passe pour les biocarburants, en fait, le secteur agricole à lui seul, c'est la principale menace d'extinction de 85% des espèces en danger. Et donc, c'est assez puissant. Ensuite, le deuxième facteur de pression, c'est l'exploitation directe des ressources naturelles. En particulier, toutes les industries même les activités humaines, on vide les ressources naturelles plus rapidement qu'elles ne se régénèrent. On a 90% des ressources marines qui sont en train de s'épuiser à cause de la surpêche, des questions de surconsommation d'eau et de réserves d'eau potable. Et donc, tout ça va perturber, en surconsommant certaines ressources, on va vraiment perturber l'équilibre des écosystèmes et donc potentiellement l'ensemble du système. Troisième facteur de pression, je ne vais pas trop rentrer dedans parce qu'on le connaît tous, on en parle très souvent depuis des années, le changement climatique qui est de la même façon que nous, en tant qu'espèce, on est impacté par le changement climatique. En fait, c'est toutes les espèces qui le sont. Et le changement climatique à l'échelle mondiale, c'est le troisième facteur de pression. Et donc, quand on provoque du changement climatique, on est aussi en train de peser sur la biodiversité. Le quatrième facteur de pression, les pollutions de tout type. Elles sont de nature variée, qu'il s'agisse par exemple de déchets dans l'océan, l'accumulation de molécules toxiques dans les sols, les microparticules dans l'atmosphère, pollution des sols, pollution de l'air, pollution des eaux. Un facteur de pression assez, assez important. Et je m'attarderai quand même un peu sur le dernier facteur de pression, les espèces exotiques envahissantes, qui est souvent un facteur un peu moins compris, les mécanismes qu'on se représente un peu moins. Il s'agit en fait des espèces qui sont introduites volontairement ou involontairement dans un écosystème où elles n'appartiennent pas et qui vont le déstabiliser. En Europe, par exemple, on a l'apparition du frelon asiatique, qui est un vrai problème qui a été très agressif. Il n'y a pas de prédateur naturel dans les écosystèmes européens et donc il peut complètement, librement décimer les populations d'abeilles qui sont déjà en plus mises à mal par d'autres activités. Et donc, le frelon asiatique, c'est un exemple d'espèce exotique envahissante qui, lui, n'a pas été introduit volontairement, mais son apparition en Europe est une conséquence involontaire du changement climatique parce que son habitat évolue au fur et à mesure et donc il se déplace il vient déstabiliser des nouveaux écosystèmes. On peut aussi penser en termes d'espèces exotiques envahissantes. Par exemple, l'introduction d'OGM, que ce soit toujours une mauvaise chose, je ne vais pas être. Mais donc, par exemple, l'introduction de ce type d'espèces qui sont très résistantes, donc qui ont évidemment énormément de bénéfices pour l'agriculture, potentiellement, le risque, c'est que, étant donné qu'elles sont beaucoup plus résistantes, qu'elles prennent dessus sur toutes les autres espèces, par exemple de blé existantes, qu'elles deviennent la seule espèce. Et une fois que c'est la seule espèce, l'écosystème, il est complètement à risque parce qu'il suffit qu'il y ait une maladie qui attaque spécifiquement cette espèce. Il n'y a pas toute cette diversité génétique pour la protéger. Et donc, encore une fois, un enjeu assez complexe à appréhender, mais crucial dans les choix qu'on fait à long terme sur nos systèmes économiques. Et donc, maintenant qu'on a posé ce décor, on se rend bien compte que les enjeux de la biodiversité sont systémiques, complexes, difficiles à comprendre. Tout est plus ou moins imbriqué. Le vivant, les sociétés humaines, leurs activités économiques. Et surtout, c'est imbriqué par des relations à la fois d'impact et des relations de dépendance. Et c'est ce qu'on va avoir dans cette deuxième partie avec, avec Sophie. Et donc, face à ces enjeux, le monde économique se mobilise vraiment de plus en plus et on voit petit à petit se structurer pas mal de cadres, volontaires comme réglementaires. Et je passe la parole donc à Sophie Rousseau de PwC pour nous en parler un peu plus.
Oui, merci beaucoup Joao et bonjour à tous. Donc effectivement, ça bouge beaucoup du côté des acteurs du monde économique. Depuis quelques années, on voit de plus en plus d'entreprises s'engager pour la biodiversité et on voit par ailleurs naître des groupes d'acteurs et des initiatives qui se structurent sur ce sujet de la biodiversité. Je ne vais pas tous les détailler ici, ce n'est pas forcément l'idée, mais je peux quand même vous donner quelques exemples intéressants. Un premier exemple, c'est Business for Nature. C'est une coalition internationale qui est soutenue par de nombreux partenaires qui sont à la fois économiques, type le World Economic Forum, mais aussi des représentants de la nature, comme le WWF. Et le but de la coalition, c'est d'atteindre une économie positive pour la nature d'ici 2030, en soutenant à la fois la mise en place de politiques publiques et le passage à l'action chez les entreprises. C'est d'ailleurs Business for Nature qui a développé, avec l'aide de PwC, le Nature Strategy Handbook, dont on vous parlera un petit peu plus tard dans ce webcast. Une autre initiative intéressante, c'est Act for Nature, qui est une initiative qui mêle les réseaux d'entreprises, des scientifiques, des ONG, des organismes publics. Son objectif, c'est de mobiliser les entreprises en faveur de la biodiversité via des engagements qui se veulent pragmatiques et soutenus par leurs dirigeants. Aujourd'hui, Act for Nature, c'est environ 70 entreprises qui se sont fait valider leurs engagements. Donc ça, c'est côté entreprise. Côté investisseur, on a aussi deux actions intéressantes qu'on voulait mettre en avant ici. Les engagements, ou en anglais, le pledge de Finance for Biodiversity, qui engage les dirigeants mondiaux à protéger et à restaurer la biodiversité par le biais de leur activité financière et de leurs investissements. Aujourd'hui, ça représente plus de 160 institutions financières qui représentent 22 milliards d'assets sous gestion qui ont signé du coup ces engagements. Et dernière initiative dont on voulait vous parler, Nature Action 100, qui est le pendant du Climate Action 100. Donc, comme disait Émilie, on voit bien le parallèle entre les deux. Et qui vise donc à renforcer l'ambition et l'action des entreprises pour lutter contre la perte de biodiversité au global. En septembre 2023, Nature Action 100 et les investisseurs de l'initiative ont, par exemple, envoyé une lettre à 100 grandes entreprises pour les appeler à des actions urgentes pour protéger et restaurer la nature et donc atténuer les risques financiers associés à ces risques-là. Plus globalement, on vous a affiché là une frise à l'écran. Ce qu'on voit, c'est que pendant quelques temps, la biodiversité, elle était surtout traitée par des conventions spécifiques, typiquement la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO qui était dans les années 70, la Convention sur la diversité biologique en 1992 au sommet de la Terre. À partir de 2015, les choses elles ont commencé à se structurer, avec notamment l'arrivée des objectifs du développement durable, le protocole de capital naturel et la Global Reporting Initiative. Mais c'est surtout à partir de 2019, plutôt sur la droite de la slide, qu'on a assisté à une vraie explosion de cadres, à la fois côté réglementaire et volontaire, et par ailleurs à la formalisation d'une vraie vision politique sur le sujet, à la fois niveau français, européen et mondial. Une petite parenthèse ici, comme commençait à vous l'évoquer tout à l'heure Émilie, certains noms sur cette slide vous rappellent sûrement quelque chose, et c'est normal du coup, parce que effectivement beaucoup de ces cadres ont leur équivalent sur le sujet climat, typiquement SBTI, TNFD, COP21 pour ne citer que. C'est encore une fois une des raisons pour laquelle on est convaincu que la biodiversité va rejoindre le climat en termes d'importance dans les années à venir. Maintenant qu'on s'est dit ça, tous ces cadres, a priori, ça peut être un petit peu déprimant. On ne sait plus vraiment où donner de la tête, on ne sait plus lequel suivre. On a commencé à suivre un de ces cadres et là, il y a une réglementation qui arrive, donc on ne sait plus si ça vaut le coup ou pas. Heureusement, en réalité, beaucoup de ces cadres, finalement, s'alignent, se répondent et ou se complètent. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va faire du coup un focus sur 5 des cadres qu'on a vus sur la frise juste avant. D'abord, le Global Biodiversity Framework. Ça, c'est un cadre international qu'a cité Émilie au début. C'est un cadre clé qui a été signé par 190 pays à l'issue donc de la COP15 en 2022 à Montréal. L'objectif de cette COP, c'était de définir un cadre mondial sur la biodiversité qui permette de développer un monde en harmonie avec la nature. Ce qu'il en est ressorti, c'est à la fois 4 objectifs pour protéger la biodiversité à 2050 et 23 objectifs pour 2030. On peut citer par exemple restaurer 30% des écosystèmes dégradés ou réduire de 500 milliards de dollars par an les subventions néfastes pour la nature. Ce cadre, du coup, c'est à la fois ce vers quoi les États collectivement se sont mis d'accord d'aller et donc un cadre auquel on doit tous contribuer. Une fois qu'on sait où on veut aller, la question c'est comment on va y aller. Pour ça, il y a des cadres volontaires qui ont été définis et qui visent à donner des guidelines aux entreprises, des recommandations aux entreprises pour mieux comprendre leurs enjeux liés à la biodiversité et comment mieux les adresser. Ça, c'est notamment ce que propose l'approche LIP, qui a été développée par la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, donc la TNFD, et les Science-Based Targets for Nature, ou SBTN, qui permettent plus spécifiquement de se fixer des objectifs appropriés et basés sur la science. L'étape d'après, c'est la transparence et l'harmonisation des pratiques de reporting. C'est l'objectif premier de la TNFD, qui donne du coup aux entreprises des recommandations pour les aider à rendre compte de ce qu'elles font sur ces questions liées à la nature. C'est aussi l'objectif de la Global Reporting Initiative, qui est donc un organisme indépendant international qui fournit les exigences et les lignes directrices pour le reporting annuel des indicateurs. Et sur cette base-là, l'EFRAG s'est évidemment inspiré de ces cadres existants pour rédiger notamment le SRSE 4. Quelques exemples. Les indicateurs de la Global Reporting Initiative, ils ont servi d'inspiration pour les métriques d'impact de l'ESRSE 4. Par ailleurs, la CSRD, elle recommande l'utilisation de la méthodologie LIP de la TNFD pour plusieurs ESRS environnementaux. Et évidemment, ça n'a pas dû vous échapper si vous avez lu le SRSE 4. Le Global Biodiversity Framework, il sert de cap. Et le SRSE 4, il encourage les entreprises via différents disclosure requirements à aligner leur stratégie avec ce cadre mondial. On y reviendra juste après. Tout ça, ce que ça veut dire finalement, c'est que si vous avez déjà commencé à utiliser ces différents cadres et standards, vous aurez déjà beaucoup d'éléments pour être aligné avec les exigences de reporting de l'ESRSE 4. Et alors justement, avant de rentrer dans le détail de la norme, on voulait faire un petit point de focus sur les liens entre l'ESRSE 4 et la TNFD. On a eu quelques questions à ce sujet avant ce webcast et c'est un sujet qui nous semblait très important à couvrir ici. Donc aujourd'hui, la TNFD, c'est un cadre reconnu internationalement et qui est suivi par de plus en plus d'entreprises. D'ailleurs, pour information, vous l'avez peut-être vu passer, les early adopters, ce qu'on appelle les early adopters de la TNFD, ont été annoncés officiellement en janvier 2024. Pour rappel, du coup, dans la première version de l'ESRSE 4, la TNFD était mentionnée à plusieurs reprises comme source d'inspiration pour les entreprises. Dans la version finale, au final, c'est seulement la méthodologie LIP, qui est donc développée par la TNFD, qui a été conservée comme recommandation pour réaliser l'analyse de matérialité. On y reviendra un peu plus tard. Finalement, la principale différence entre les deux cadres, c'est que l'un, du coup, est réglementaire, évidemment, la CSRD, et l'autre est volontaire, donc la TNFD. Évidemment, ça donne une influence supplémentaire à la CSRD, et notamment par le fait qu'en imposant la transparence aux entreprises sur certains sujets, elle encourage le passage à l'action. Et vous avez sûrement dû entendre ça plusieurs fois dans nos webcasts. Exemple très concret, si je n'ai pas formalisé de politique biodiversité, la CSRD m'impose dans tous les cas de le dire, et si tous mes pairs en ont formalisé une, ça va un peu faire tâche, et donc ça va quelque part me pousser à l'action. En revanche, dans le contenu, entre le SRSE 4 et la TNFD, les deux cadres sont très similaires. Déjà, la structure est la même. On retrouve plusieurs parties qui sont les mêmes. Gouvernance, stratégie, identification des impacts, dépendances, risques et opportunités, et définition des indicateurs et des cibles. Par ailleurs, ce qui est demandé par l'un est souvent demandé par l'autre. Ce qui change, c'est éventuellement le format ou le niveau de détail qui est demandé. Et après, il y aura des spécificités. Typiquement, le SRSE 4 va être plus spécifique par moment, par exemple en mentionnant spécifiquement les sujets de dégradation des sols et de désertification, quand la TNFD sera une source peut-être plus riche pour prendre en compte la chaîne de valeur. Et donc, comme je le disais, les ESRS recommandent l'utilisation de l'approche LIP de la TNFD pour réaliser l'analyse de double matérialité pour les sujets de l'eau, de la biodiversité et de la pollution. Ce sont tout ça des sujets très locaux et il se trouve que la première étape de l'approche LIP, qui est Locate, consiste justement à aller identifier les lieux des activités. On en reparlera là aussi. J'en profite pour faire une petite parenthèse ici. On a fait un focus sur le SRSE 4, mais la TNFD couvre la nature en général, donc en incluant aussi des sujets comme l'eau, la pollution, etc., qui sont, comme vous le savez, couverts par d'autres ESRS. Peut-être pour conclure ici, on a beaucoup hésité à présenter un niveau chiffré d'alignement entre la TNFD et le SRSE 4, mais finalement, ça ne nous a pas paru forcément pertinent. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces deux cadres sont globalement très alignés. Et évidemment, les entreprises qui ont commencé par la TNFD auront une marche moins haute à franchir, car elles sont de fait plus matures dans la réflexion sur l'identification des impacts, dépendances, risques et opportunités, et leur reporting. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'avec la TNFD, on couvre tout. C'est hyper important d'aller regarder dans le détail ce que demande le SRSE 4, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs spécificités qui ne seront pas forcément couvertes telles quelles par la TNFD. Maintenant qu'on a posé le cadre, on va pouvoir rentrer plus concrètement dans ce que demande la norme E4 biodiversité. Et je vous laisse Joé nous en dire un petit peu plus.
Merci beaucoup Sophie. Donc bonjour à tous. Alors j'imagine que si vous êtes présents avec nous ce matin, c'est en fait que le sujet de la biodiversité est un sujet matériel pour votre activité. Et donc probablement que vous présentez en fait déjà des informations sur la biodiversité, soit de manière obligatoire parce qu'en fait vous êtes soumis à la DPEF, soit dans un cadre volontaire pour un rapport d'impact par exemple. Alors ce qui va changer avec l'arrivée de la CSRD, c'est que vous allez en fait devoir suivre une sorte de cahier des charges pour la publication de vos informations. Et ça, c'est le rôle des ESRS de vous dire en fait quoi produire comme information. L'objectif, c'est la production d'une information qui soit la plus homogène possible, de manière à ce que vous soyez en fait comparable entre pairs. Et l'idée, finalement, c'est donc de produire une information qui soit matérielle uniquement, qu'elle soit la plus transparente possible et donc évidemment de qualité. Alors là, pour le moment, on a 12 normes ESRS qui sont disponibles. Elles sont applicables à tous les secteurs d'activité. Plus spécifiquement sur l'environnement, on a 5 normes distinctes, même si dans les faits, c'est vrai que ces sujets sont intimement liés et c'est particulièrement le cas du point de vue de la biodiversité. Joao l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut pas apprécier le sujet de la biodiversité sans considérer le changement climatique et les pollutions, par exemple. Par contre, au moment de venir présenter ces informations au sein du reporting de durabilité, là, il faudra bien se poser la question de savoir en fait dans quelle norme je dois le faire. Et éventuellement, vous aurez la possibilité de réaliser des renvois si c'est pertinent. Alors, cette norme ESRS E4, biodiversité et écosystème, elle couvre 4 sous-sujets principaux qui eux-mêmes couvrent des sous-sous-sujets. On va retrouver dans ce que couvre cette norme les notions dont Justine a parlé tout à l'heure sur les facteurs de pression et les dépendances aux services écosystémiques. Alors pour vous aider un petit peu dans la lecture de ce slide, on va donc retrouver. Donc la norme couvre, donc je l'ai dit, les facteurs de pression. Ce sont les 5 mêmes que ceux identifiés par l'IPBS. Et donc, par exemple, là, la question que l'entreprise peut se poser pour savoir si c'est un sujet pour elle, c'est est-ce que l'entreprise participe au changement d'affectation des terres ? La norme, elle couvre aussi les incidences sur l'état des espèces. Alors là, on se pose la question de savoir quel est le risque de disparition d'une espèce due à mon activité sur une zone géographique spécifique. La norme, elle couvre aussi les incidences sur l'étendue et l'état des écosystèmes. Là, la question qui va se poser, c'est dans quelle mesure l'activité de l'entreprise va dégrader les sols, par exemple du fait de l'imperméabilisation ou de la participation à la désertification. Et puis, elle couvre aussi les incidences et dépendances aux services écosystémiques dont Justine a parlé tout à l'heure. Alors, bien sûr, vous n'avez pas de devoir traiter de tous ces sujets au sein de votre reporting de durabilité. Je le rappelle, la première étape, le point d'entrée dans le reporting de durabilité, c'est vraiment l'analyse de matérialité, savoir si le sujet est matériel pour vous. Cette liste-là, qui est fournie par les normes, elle va vous servir donc pour cette analyse de double matérialité, pour l'identification ensuite des impacts, des dépendances, des risques et des opportunités. Cette liste, attention, ce n'est pas une checklist pour autant, elle représente un point de départ parce qu'en fait, c'est le minimum à considérer dans l'analyse. Mais il y a d'autres sujets qui peuvent devoir être analysées, soit parce que c'est pertinent du point de vue de votre secteur, donc de votre activité, soit de manière spécifique à votre groupe. Voilà, donc là, sur ce slide, vous avez une vision globale de la norme E4. Donc, Sophie, en fait, tout à l'heure, nous a parlé du lien, de son lien là, avec la TNFD. On le retrouve, en fait, ici, à travers la structure qui est la même. Donc, en quatre piliers, gouvernance, stratégie, management des impacts, dépendance, risques et opportunités, voilà, et les métriques. Alors, j'utilise ce visuel pour vous faire plusieurs points d'attention. Déjà, un premier sur la mécanique d'utilisation des normes. Alors, vous êtes très certainement chargé de rédiger le chapitre sur la biodiversité, mais j'attire votre attention sur l'importance de lire également les normes ESRS, les normes générales, hein, ESRS 1 et ESRS 2, en plus de celles sur la biodiversité. Elles fonctionnent vraiment ensemble. Alors, sur le slide, je vous ai mis un exemple. Les informations minimales à présenter sur les politiques, les actions et les cibles, en fait, elles sont listées dans la norme générale ESRS 2. Ça s'appelle les MDR. Ensuite, des points d'attention sur l'approche de la norme. Donc, avec la biodiversité, les enjeux, en fait, sont éminemment locaux et cet aspect-là, c'est vraiment le point central de la norme. Alors, si on prend un exemple, l'impact d'une industrie bruyante, il ne sera pas le même dans une zone industrielle que dans une réserve d'animaux en voie de disparition. Donc, c'est peut-être un petit peu grossier comme exemple, mais au moins, on comprend bien. Donc, la première étape, ce sera vraiment en fait, d'identifier les activités situées à proximité de zones sensibles. C'est vraiment un aspect en fait, qui revient à plusieurs endroits de la norme. Je voulais identifier en orange. Donc, par exemple, en fait, il faudra venir lister ces sites qui affectent de manière négative des zones à biodiversité sensible. Il faudra aller dire si on a des politiques qui couvrent spécifiquement ces sites et puis suivre dans le temps le nombre de ces sites qui, donc encore une fois, affectent négativement la biodiversité. J'attire aussi votre attention sur le fait que, comme pour la norme changement climatique et la norme pollution, la biodiversité fait appel à la notion de contrôle opérationnel. C'est les trois OP que vous voyez. Donc, on couvre les sites détenus, mais pas uniquement. On prend compte aussi de ceux qu'on loue et ceux qu'on gère. Alors, autre point, ce sont certes les impacts, mais aussi les dépendances aux services écosystémiques qui peuvent être vecteurs de risques et d'opportunités. C'est vraiment l'aspect dépendance qui est inséré dans ces normes, même si on continue de parler uniquement d'IRO, impact, risque et opportunité. On inclut aussi les dépendances. Alors, globalement, les trois premiers piliers, ce sont principalement des informations qualitatives qui sont attendues. Et le quatrième pilier, lui, comprend différents ratios et données quantitatives. Mais globalement, et c'est important quand même de le garder en tête, ce sont majoritairement des informations qualitatives qui sont demandées. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier et se focaliser sur les indicateurs chiffrés. Et enfin, donc, pour la biodiversité comme pour le climat, on va retrouver en fait la notion de plan de transition. Alors, petit rappel pour le climat. Je ne suis pas obligée d'avoir un plan de transition. De manière générale, les ESRS n'obligent pas à faire quoi que ce soit. Par contre, si j'en ai un, je dois expressément le dire. Côté biodiversité, là, toute mention sur un éventuel plan de transition, il est à faire uniquement sur base volontaire. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour vous parler justement de ces informations à présenter sur base volontaire uniquement. On vous a remis en fait ici les statistiques qui ont été réalisées par l'EFRAG sur le nombre d'informations à fournir, celles qui sont obligatoires et celles qui sont volontaires. Donc, pour rappel, les informations qui contiennent shall disclose, c'est une information qui est obligatoire à condition d'être matérielle, et may disclose, c'est une information qui reste volontaire, quand bien même elle serait matérielle. Pour la biodiversité, donc je l'ai encadrée sur le slide, on remarque en fait que la majorité des informations à présenter le sont uniquement sur base volontaire, quand bien même, encore une fois, ce serait une information qui serait matérielle. Alors, on m'a demandé, parce que vous aviez en fait la possibilité de poser des questions en amont au moment de votre inscription. Donc, on nous a demandé en fait si combien de temps ces informations volontaires allaient le rester. Alors, je le rappelle, les SRS, c'est la loi, c'est écrit comme tel, et sauf amendement ultérieur de la loi, ça va rester rédigé comme ça. Donc, il n'y a pas de limitation dans le temps à l'aspect volontaire de ces informations en question. Par contre, il n'est pas impossible qu'une information qui soit volontaire ici, dans ce set de normes qui concerne tous les secteurs, soit demandée de manière obligatoire pour un secteur en particulier, parce que ce serait particulièrement pertinent, ou alors que cet indicateur ou cette information est plus mature dans un secteur ou dans un autre. Voilà. Et ces normes sectorielles, elles vont arriver dans environ 2 ans. Donc ici, je vous parle d'informations volontaires. Donc oui, l'information est matérielle, mais j'ai le droit de ne pas la donner. Il ne faut pas le confondre avec les informations différées dans le temps. Alors là, oui, l'information, elle est matérielle. Je suis obligée de la donner, mais pas tout de suite. En fait, la norme, elle me laisse le temps de m'y préparer. On appelle ça les phase-in provisions. Il y a toute une liste qui couvre toutes les normes. Et là, spécifiquement à la biodiversité, c'est celle qu'on voit à l'écran, donc déjà sur les effets financiers anticipés. Je parle uniquement des effets financiers futurs. Là, la norme, elle nous laisse un petit peu de temps pour nous y préparer, parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet évident. Il n'y a pas de méthodologie généralement acceptée qui existe. Et en fait, c'est à l'entreprise de prendre des hypothèses. Alors, la première année, il sera possible de ne rien dire. Mais par contre, dès l'année suivante, il faudra à minima donner une information qui soit qualitative. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure sur la slide d'après. Et donc, l'année 3, pareil. L'information qualitative uniquement, c'est possible. Et à partir de la quatrième année, là, il va falloir commencer à chiffrer les effets. Ensuite, on a une autre disposition. Celle-ci, elle ne s'applique qu'aux groupes de moins de 750 salariés. Là, ces groupes-là ont la possibilité, les 2 premières années de reporting, de ne pas présenter cette norme. La norme dont on est en train de parler, il est possible de ne rien en dire. Par contre, attention, qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là. Hein, du point de vue de l'analyse de matérialité, ça ne change rien. Le sujet de la biodiversité, tous les thèmes qu'on a couverts là, sur la slide jaune, ce sont des sujets à prendre en considération dans l'analyse de la matérialité, au même titre que tous les autres sujets, dès la première année. Et en termes de disclosure, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a rien à dire sur le sujet de la biodiversité. Si c'est un sujet matériel, dès la première année, il va falloir présenter des informations, et ces informations, c'est dans ESRS 2, la norme générale dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut aussi lire. C'est là-dedans qu'on va savoir quelles informations il faut présenter. Là, je vais vous le dire, globalement, c'est la liste des sujets matériels, comment la stratégie et le business model prennent en compte ces sujets, les cibles que vous avez éventuellement fixées, les progrès que vous avez réalisés. Vous allez devoir dire si ces cibles ont une cohérence scientifique, et puis politique, action et indicateurs pertinents si vous en avez mis en place. Voilà. Maintenant, sur ce slide, on s'arrête un instant pour parler des indicateurs quantitatifs, ce qu'on appelle les métriques. Donc, on a ici une vision globale de ce que demande la norme. Donc, on n'est pas dans la granité de l'information, c'est vraiment les grandes catégories de data points qui sont demandées. Alors là, j'ai 4 messages pour vous. Le premier, c'est qu'une grande partie, je le disais tout à l'heure, des informations qui sont demandées est à fournir sur base volontaire uniquement, quand bien même ce sujet est matériel. On le voit en fait avec la prépondérance des typiques tictogrammes rouges sur le slide. Deuxième message, là, c'est vraiment une particularité de la norme biodiversité. C'est vrai que c'est aussi peut-être une difficulté, il faut le reconnaître. Les indicateurs à présenter ne sont pas prescrits. En fait, la norme va vous dire, vous pouvez présenter de l'information sur telle catégorie et les indicateurs, c'est à vous de les choisir. Par contre, vous avez quand même des exemples d'indicateurs pour vous êtes quand même un petit peu guidé. Donc, concrètement, c'est vous qui allez devoir définir l'indicateur qui est pertinent. Pertinent, ça veut dire quoi? Déjà d'une, ça veut dire que ça concerne de base un sujet matériel pour vous. Et ensuite, soit parce que l'entreprise en fait a mis en place des politiques, des actions et qu'en fait ça lui permet de suivre leur efficacité et de prendre en compte, de rendre compte de l'atteinte d'une cible que vous êtes éventuellement fixée, ou soit simplement parce que cette information en fait elle est demandée par un utilisateur de l'état de durabilité. Donc, par exemple, si mon activité nécessite d'artificialiser des terres, donc il sera pertinent de publier un indicateur sur la conversion dans le temps de l'occupation des sols, par exemple la déforestation, quand bien même en fait, vous n'auriez rien mis en place pour agir ou réduire cet impact-là. Et puis, oui, un troisième message. Donc, je disais, une majorité d'indicateurs à présenter sur base volontaire uniquement. Je vais quand même vous parler des deux qui sont obligatoires. Donc, c'est le premier sur les... Alors, les numéros indiqués sur le slide n'ont rien à voir avec la norme. Hein. C'est simplement pour vous les lister ici. Donc, le premier sur la slide, c'est un indicateur qui est obligatoire, si matériel, encore une fois. Là, on veut le nombre de sites situés à proximité d'une zone sensible sur le plan de la biodiversité. Alors, on ne veut pas tous les sites, on veut uniquement ceux qui ont un impact négatif. Et ensuite, attention, je le mentionnais tout à l'heure, on ne prend pas uniquement en compte les sites qui sont détenus, on prend aussi en compte ceux qui sont loués ou simplement gérés. Voilà. Et donc, on a aussi le numéro 3 sur le slide qui est obligatoire. Donc sur le champ, il est obligatoire, mais c'est l'information qui est obligatoire. Donc, si le changement d'affectation des terres est un sujet matériel pour vous, vous allez devoir en dire quelque chose. Par contre, l'indicateur à suivre, il n'est pas prescrit. C'est à vous de le choisir. Et puis, je vous avais parlé de 4 messages. Mon dernier message, c'est sur les effets financiers anticipés. Donc là, il s'agit vraiment d'un exercice de projection à court, moyen, long terme, sur les différents agrégats comptables, comme le compte de résultat, le bilan, le tableau de flux de trésorerie notamment, mais pas que. Et puis, je vous ai promis des exemples. Donc, on peut imaginer, par exemple, une hausse des coûts d'achat anticipés à court, moyen, long terme, par exemple, des matières premières, soit du fait d'un sourcing plus durable ou alors, à l'inverse, d'une raréfaction de la matière. On peut aussi envisager une hausse des revenus anticipés du fait, par exemple, d'une opportunité commerciale parce qu'en fait, la gamme de produits que vous vendez serait plus respectueuse de l'environnement que vos concurrents directs. On a vraiment, en fait, dans les effets financiers anticipés, cette notion à la fois du risque et d'opportunité dont on peut parler à ce niveau-là. Et je le disais tout à l'heure, ces informations sur les effets financiers, ils ne sont pas demandés dès la première année. Vous avez un petit peu de temps pour vous y préparer. Et enfin, un dernier point que je voulais voir avec vous pour finir cette partie normative, c'est sur la chaîne de valeur. Pour rappel, on va couvrir les activités amont, par exemple les fournisseurs, et l'aval, par exemple la distribution et les clients. On regarde les relations directes, mais également les relations indirectes. Ça veut dire concrètement que pour les fournisseurs, on ne s'arrête pas au tier 1. Donc, quand est-ce que je prends en compte cette chaîne de valeur dans mon reporting de durabilité? 1, pour l'analyse de matérialité. 2, pour la présentation des politiques, actions et cibles. Là, je m'arrête un instant pour faire un rappel. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans les ESRS, il n'y a pas d'obligation à avoir des politiques, à mettre en place des actions et encore à fixer les cibles. Ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, à partir du moment où j'ai adressé un problème, je vais devoir dire si oui ou non j'ai mis en place une politique, par exemple, pour l'adresser. Voilà. Et je vais aussi devoir être transparent sur le scope de cette politique. Quels sont les sites, quelles sont les entités qui sont inclus, exclus, quels sont les sites ciblés. Et donc, si j'ai une politique, par exemple, qui couvre certains acteurs de ma chaîne de valeur, je viens de préciser, c'est en ça que les politiques actions et cibles viennent prendre en compte, en compte la chaîne de valeur. On a aussi, par endroit, des mentions spécifiques à la chaîne de valeur, si on reste toujours dans les politiques, par exemple celui que je vous ai remis sur le slide, qui demande spécifiquement de dire si on a mis en place des politiques de traçabilité sur des matériaux qui seraient vecteurs ou potentiellement vecteurs d'impact. Et puis, donc, les indicateurs quantitatifs, donc les metrics, là, en principe, la chaîne de valeur n'est pas couverte. En revanche, une entité pourrait tout à fait juger pertinent, matériel, de créer un indicateur spécifique pour poursuivre les données d'un acteur majeur de sa chaîne de valeur, par exemple. Voilà, donc maintenant qu'on a une meilleure idée de ce que couvre, de ce que demande le SRSE 4, on peut réfléchir à comment y répondre en pratique et surtout comment essayer d'en faire une opportunité en fait pour développer cette fameuse stratégie biodiversité. Et Sophie, je te laisse la parole pour nous en dire plus. Sophie, je crois qu'on ne t'entend pas.
Ah, pardon, je reprends. Effectivement, du coup, je disais, a priori, la CSRD, elle apparaît pour beaucoup comme une contrainte réglementaire en plus, comme une obligation de transparence avec des cases à cocher sur chaque thématique de reporting. En réalité, si l'EFRAG elle a passé autant de temps à y réfléchir, c'est en fait un petit peu plus que ça. C'est un peu ce que je commençais à vous dire tout à l'heure quand je comparais CSRD et TNFD. Et l'AMF le dit d'ailleurs elle-même, au travers de ses obligations de transparence, finalement la CSRD, elle encourage les entreprises et elle leur donne des lignes directrices pour mieux intégrer les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein de leur stratégie, et du coup avec l'idée derrière de renforcer leur résilience sur le long terme. La biodiversité, évidemment, ne fait pas exception dans cette logique-là. Quand on regarde finalement les grandes étapes de la construction d'une stratégie biodiversité, on voit qu'elle se rapproche beaucoup de ce qui est demandé par la CSRD. Ici en particulier, ce qu'on vous a mis à l'écran, c'est les grandes étapes clés tirées du Nature Strategy Handbook dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été donc formalisé par Business for Nature et qui vise à formaliser une stratégie biodiversité. Là, panique à bord, vous vous dites peut-être encore un cadre supplémentaire, mais ce qu'a fait en fait Business for Nature, c'est beaucoup mieux que ça. Ils ont pris les principaux cadres existants, donc ce dont on parlait tout à l'heure, TNFD, SBTN, protocole de capital naturel, etc. Et avec leurs différents partenaires, ils ont tout combiné et synthétisé pour au final en faire un guide de 10 pages sur comment définir et mettre en place une stratégie biodiversité. Rapidement, du coup, les grandes étapes de la construction de cette stratégie. 1. Mesurer, évaluer et prioriser ses impacts et dépendances à la nature pour agir sur les sujets les plus matériels. 2. Définir des objectifs alignés sur la science pour donner un cap et s'assurer d'aller dans la bonne direction. 3. Transformer son entreprise en faisant évoluer ses pratiques et sa stratégie d'entreprise pour limiter ses impacts négatifs. Et enfin, 4, reporter et faire vérifier ces éléments en s'alignant avec les principaux standards de reporting existants. Tout ça, normalement, ça devrait sonner plutôt familier pour vous, et parce qu'effectivement, ça s'aligne avec ce qui est demandé par le SRSE 4. Ici, on a essayé de faire un mapping, justement, entre le cadre de Business for Nature et le cadre de le SRSE 4. Si on regarde dans le détail, on voit effectivement que chaque disclosure requirement de l'ESRSE 4 vient s'inspirer et nourrir les grandes étapes de la construction d'une stratégie biodiversité, avec en étape un peu transversale l'étape de reporting de tous ces éléments. Ce qui veut aussi dire que si vous avez déjà mis en place une stratégie biodiversité, il s'agira surtout de préparer l'information sur le bon format pour s'aligner avec les attentes de transparence de l'ESRSE 4. Maintenant qu'on s'est dit ça, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment construire une stratégie de biodiversité, avec quels outils, et comment du coup ça permet de répondre aux exigences de la CSRD. On a donc sélectionné pour vous une série de quelques questions sous-jacentes qui nous paraissent clés dans cette démarche et qu'on va illustrer via des cas pratiques rencontrés auprès d'entreprises qu'on a pu accompagner sur le sujet. Comme vous pouvez le voir là sur la slide, ces questions elles permettent à la fois de remplir les grandes étapes pour construire sa stratégie de biodiversité, mais aussi de s'aligner avec les exigences des différents disclosure requirements de l'ESRSE 4. Pour répondre à ces questions, on va vous proposer différents outils. Parmi ces outils, il y en a un en particulier qui est assez puissant et structurant dans la construction d'une stratégie de biodiversité, c'est le Global Biodiversity Score, qui a été donc développé par CDC Biodiversité et dont Joao et Justine vont vous parler tout de suite. Il faut savoir que c'est un outil qui répond à un certain niveau d'ambition sur ce sujet de la biodiversité. Il existe évidemment d'autres outils adaptés à d'autres niveaux d'ambition qu'on vous citera aussi au fur et à mesure. Et je laisse du coup Justine continuer sur le sujet.
Merci Sophie pour l'introduction. Donc effectivement, avant de passer aux illustrations, il nous semble important de donner des éléments un peu explicatifs sur le fonctionnement du Global Biodiversity Score, qu'on abrège en GBS. Donc dans l'idée, le GBS peut être comparé à l'outil de bilan carbone, mais spécifiquement sur le périmètre de la biodiversité. Donc il a été lancé en 2020 et continue à être développé et alimenté par nos équipes chez CDC Biodiversité. Et on a l'ambition d'en faire un standard ou une référence parce que on le développe vraiment avec une optique d'intérêt général au même titre que le bilan carbone. Et à ce titre-là, il peut être pris directement en main par les entreprises, donc que ce soit dans le cadre d'un accompagnement par des personnes qu'on appelle des assesseurs externes. Ça peut être nous chez CDC Biodiversité ou les équipes de PwC qui sont formées au GBS. Et donc le parallèle avec le bilan carbone, il ne s'arrête pas seulement là parce que le principe de fonctionnement du GBS, c'est un ensemble de modèles qui permet de prendre en compte des données d'activité d'une entreprise, donc des données financières, des tonnages de matières achetées, etc., et de les ramener à des données de pression, donc toujours selon les catégories de l'IPBES dont Joao vous avait parlé en introduction. Et donc, une fois que les données d'entrée sont traduites en pression, on s'appuie sur le modèle Globio, qui est une référence développée par un grand institut de recherche aux Pays-Bas, le PBL. Donc on utilise Globio pour passer à nouveau ces données de pression en impact. Donc, trois niveaux de segmentation, de modélisation des données. Et à la fin, donc, ces impacts, ils sont exprimés dans une métrique unique. C'est la MSA kilomètre carré. Donc, c'est un peu, notre équivalent carbone qui agrège au même titre que ce que fait le tonne équivalent carbone, le CO2 méthane, N2O, nous, on a toutes les pressions qui sont converties et données en équivalent de surface détruite, donc un MSA. Donc, en fait, il faut comprendre le score qui sort du GBS par la phrase « L'ensemble des activités de l'entreprise génère un impact de, mettons, 7 MSA km². Donc, c'est l'équivalent de la destruction de 7 km² d'écosystèmes naturels. Et Joao devrait pouvoir illustrer plus concrètement l'exemple. C'est bon, je te laisse la parole.
Oui, la transition était un peu longue. Rapidement, donc là, c'était juste pour vous illustrer un peu plus concrètement l'outil, parce que ça va vraiment être utile pour comprendre les illustrations par la suite. Donc là, on a les différents niveaux de modélisation qu'évoquait Justine. Et donc, si, imaginons que je suis une entreprise qui produit de la volaille. J'ai mes impacts sur la biodiversité. On a à la fois des impacts directs, mais aussi comme les occupations des sols de mes installations, les consommations d'eau de mes usines, etc., qui sont des pressions directes. Mais on a aussi des impacts indirects, potentiellement, l'alimentation de ma volaille qui est plus difficile à quantifier. Et donc, le GBS, vraiment, est un outil qui va permettre d'aller évaluer tous ces impacts et de fournir de l'information si jamais elle n'existe pas. Et donc, on n'est pas forcément obligé de passer par des inventaires écologiques qui seraient très lourds à collecter à l'échelle d'une grande entreprise. Et donc, ici, par exemple, l'exemple, c'est de dire, même sans collecter, même si on n'a pas toutes les données d'impact, etc., on peut prendre, par exemple, des données comme le chiffre d'affaires de l'entreprise dans un secteur d'activité précis ou des tonnages, par exemple, d'achat en termes de maïs. Et puis, on a différents niveaux de modèles qui sont des modèles entrée-sortie économique, des analyses de cycle de vie, des études spécifiques, etc., qui nous permettent de passer progressivement de ces données, des euros, des tonnages, etc., à des données de pression, comme Justine le disait. Donc, en fait, convertir tout ça, dire par exemple une tonne de blé, c'est tant de mètres carrés de production, enfin de ferme ou de champ. Et donc, derrière, en fonction des types, par exemple, d'agriculture, de transformer ça en impact. Et donc, évidemment, plus on a de données précises pour, comme une remontée directe de la part du fournisseur sur les pratiques agricoles, plus l'évaluation d'impact sera précise. Mais en l'absence de ces données, le GBS permet d'obtenir des ordres de grandeur, d'identifier les enjeux principaux sur lesquels l'entreprise doit se focaliser et déterminer les indicateurs qu'elle doit mettre en place pour aussi améliorer la traçabilité de ses impacts. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'améliorer progressivement la connaissance de l'empreinte de l'entreprise pour pouvoir agir dessus. Et donc, à partir de maintenant, on va vous proposer quelques illustrations très concrètes de comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on applique ce type d'outils de quantification et autres pour répondre aux, pour construire une stratégie biodiversité. Et donc, Justine prend la première question.
Donc oui, on attaque maintenant les questions. Donc on va vous présenter plusieurs slides là sur le même, qui ont à peu près le même design. On a en haut un bandeau qui donc donne la source du questionnement de l'entreprise. Au centre, on a une illustration du travail mené pour répondre à la question. Et la dernière ligne en bas, c'est un résumé de ce que l'entreprise en a retiré. Donc ça, on va le décliner sur toutes les prochaines slides. Mais donc ici, on commence par une question clé lorsqu'on traite les enjeux de biodiversité, et c'est celle de la contribution aux nouvelles pertes de biodiversité. Donc elle prend un sens particulier, cette question, parce que dans les cadres et objectifs mondiaux, on a, et notamment donc, enfin, ceux en lien avec l'accord CUNY-Montréal de la COP15, la priorité, c'est de stopper l'érosion de la biodiversité. Et pour traduire ça très concrètement, si je suis une entreprise qui possède des usines, donc l'artificialisation des sols due à la présence des usines, elle est potentiellement là depuis longtemps et elle ne change pas d'année en année, donc c'est un peu incompressible. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impact statique ou permanent. Par contre, la construction d'une nouvelle usine sur une zone qui est a priori non artificialisée, là, ça va engendrer une nouvelle perte de biodiversité. Et donc, toujours dans l'optique de stopper l'érosion de la biodive, la priorité de l'entreprise, ça va être d'agir sur ces nouvelles pertes-là pour les éviter et les réduire au maximum. Donc là, cette distinction, elle est transposable à l'ensemble des pressions. Et par exemple, une entreprise qui prélève de l'eau dans une rivière, elle va impacter le flux de la rivière et perturber perturber le flux global. Mais donc, si la quantité prélevée, elle est la même tous les ans et que le flux de base, il est à peu près constant, la pression qui va être exercée par l'entreprise sur le milieu aquatique, elle est elle aussi constante. Et de fait, il y a une sorte de nouvel état d'équilibre qui est atteint entre l'entreprise et l'écosystème. Donc, même si sans les activités de l'entreprise, il y aurait potentiellement un petit peu plus de biodiversité sur place, ce nouvel état d'équilibre qui est vraiment similaire d'année en année, il génère pas de nouvelles dégradations au cours du temps. Mais par contre, si la consommation de l'entreprise, elle augmente d'année en année, chaque augmentation, elle va entraîner une dégradation supplémentaire du milieu, et c'est ça qu'on appelle l'empreinte dynamique ou les impacts dynamiques. Et cette particularité-là, elle est assez différente, ou très spécifique à la biodiversité, parce qu'on la retrouve pas, sur l'empreinte carbone dans le climat, on n'a pas cette différence entre la notion de statique permanent et de dynamique. Et vu que la priorité, c'est de limiter au maximum les nouvelles pertes de biodiversité, il y a un terme qu'on entend beaucoup, c'est le no net loss ou le zéro perte nette de biodiversité. Pardon. Et en agissant spécifiquement sur ces nouvelles pertes, c'est là où on va contribuer à l'atteinte de cet objectif. Et c'est aussi d'ailleurs la logique qu'on retrouve dans la réglementation ZAN, donc zéro artificialisation nette, qui vient essayer de limiter au maximum les nouvelles artificialisations, décidément, d'espaces naturels en appliquant à la fois des stratégies de sobriété foncière et en privilégiant la réhabilitation de zones déjà artificialisées. Donc, preuve qu'au final, tous ces cadres-là sont liés. Et donc, distinguer ces deux typologies d'impact, donc statique et dynamique, c'est essentiel dans la construction d'une stratégie biodiversité. Et c'est une des caractéristiques fondamentales de notre outil, le GBS. Et on va le voir dans les prochaines questions, notamment la suivante avec Joao.
Et donc, merci pour la prochaine question. Une fois qu'on a un peu cette première brique, une des premières questions que doit se poser une entreprise, c'est par quel biais et via quelle pression mon activité impacte la biodiversité. Cette question est vraiment structurante à la fois pour la construction de stratégie biodiversité, mais aussi dans le cadre de la CSRD. C'est une question qui permet de comprendre les mécanismes en jeu, comment concrètement est-ce que j'impacte la biodiversité, et derrière de structurer et prioriser l'approche de l'entreprise. Et d'autant plus que toutes les recommandations des cadres internationaux plutôt sur la définition d'objectifs vont aujourd'hui dans le sens de la définition d'objectifs spécifiques à chaque pression. Et donc, spécifiquement, on va devoir avoir des objectifs liés à l'occupation des sols, au changement climatique, aux pollutions, aux consommations d'eau, etc. Et ensemble, c'est tous ces objectifs qui constituent une stratégie biodiversité complète pour l'entreprise. Et donc, afin d'identifier ces pressions, l'entreprise peut évidemment utiliser des outils globaux très génériques comme Encore, qui donne une vision sectorielle et qui permet de savoir si le risque d'impact est faible, moyen ou élevé dans un secteur d'activité spécifique. Donc, c'est une très bonne façon d'avoir, c'est un outil gratuit, c'est très facile d'utilisation et c'est très bien pour avoir une première identification des enjeux, que ce soit en termes d'impact et de dépendance. Et finalement, on a vraiment une approche sectorielle qui n'est pas adaptée au profil spécifique de l'entreprise. Et donc, quand on veut aller un peu plus loin et comprendre vraiment quels sont mes impacts et mes dépendances précis, on doit utiliser une approche qui n'est pas juste une approche sectorielle. Et donc, c'est ce qu'on propose notamment ici avec le GBS. Donc là, on a le cas, c'est extrait d'une réelle étude, c'est globalement des chiffres sortis. Et donc, ici, on a l'exemple d'une entreprise qui voulait aller plus loin, qui a utilisé le GBS, qui a alimenté l'outil avec ses données d'activité, ses données d'achat, ses opérations, etc. Une approche, encore une fois, très similaire à celle du bilan carbone. Et donc, elle a obtenu, dans un premier temps, beaucoup d'informations, mais dans un premier temps, une image globale de ses pressions. Et elle peut en tirer plusieurs conclusions pour commencer à structurer sa stratégie. Et donc là, en fait, si on fait le lien d'ailleurs avec l'image et ce que Justine avait montré juste avant, on va à gauche ce qu'on appelle les pressions périodiques et à droite les pressions statiques et qui ont une distribution finalement différente entre pressions. Sur la gauche, en fait, on voit que les pressions périodiques, c'est qu'elles vont causer de nouvelles pertes de biodiversité tous les ans. En fait, elles sont majoritairement causées, on a un poids très important de la pression changement climatique, donc ça veut dire que la contribution de l'entreprise au changement climatique, ses émissions de gaz à effet de serre jouent un rôle aussi très important dans son empreinte biodiversité. Mais on voit aussi quand même une part assez importante des pressions pollution et des pressions occupation des sols. Donc, c'est-à-dire que dans sa chaîne de valeur notamment, là dans ce cas spécifique, on avait en fait sur l'occupation des sols et les pollutions, c'était lié à la production de matières premières dont l'entreprise avait besoin. Et donc, on voyait que finalement, en termes de nouveaux impacts sur la biodiversité, c'était vraiment sur cette chaîne de valeur et sur ces pressions, occupation des sols et pollution, que l'entreprise contribuait à l'érosion de la biodiversité. Alors qu'on a un profil assez différent sur la répartition des pressions permanentes. Finalement, on a, des changements climatiques beaucoup plus faibles, par exemple, des pollutions qui étaient plus faibles, et finalement, l'empreinte accumulée de l'entreprise est vraiment majoritairement sur l'ensemble des occupations des sols qui constituent qui sont nécessaires à son activité. Et donc, finalement, avec une approche telle que le GBS, on peut tracer ces pressions, on peut comprendre spécifiquement quelle activité, quelle matière première, et lié à quelle pression et à quelle étape de la chaîne de valeur. Et donc, il faut comprendre tous ces mécanismes, tous ces rouages pour derrière pouvoir déterminer l'action, les actions et les engagements adaptés pour chaque étape de la chaîne de valeur et pour chaque enjeu, donc chaque pression. On a ici pu vraiment à la fois structurer cette approche biodiversité, on a aussi pu créer des liens entre la stratégie climat et la stratégie biodiversité du groupe, qui était un point vraiment extrêmement important, à la fois les synergies et les antagonismes entre les deux sujets, structurer l'approche biodiversité avec une dimension en plus dont Justine va vous parler juste après, parce que contrairement à l'approche climat, les impacts et la stratégie biodiversité ne peuvent prendre sens que lorsqu'ils sont remis dans leur environnement. Et donc, il faut à la fois comprendre la répartition des pressions et aussi introduire la notion de localisation.
Merci Joao. Avec donc cette troisième illustration, on se focalise sur un volet particulier à la biodiversité, c'est celui des impacts locaux. Par exemple, si on artificialise un hectare en périphérie de Paris, en zone rurale ou au milieu de l'Amazonie, ça va avoir des impacts et des conséquences fondamentalement différentes. Et donc, c'est pour cette raison que tous les cadres sur la biodiversité, et notamment le SRS E4, mais aussi la TNFD, s'intéressent aux impacts globaux évoqués juste avant, mais aussi au dérangement des zones de biodiversité sensibles à proximité des activités des entreprises. Donc, dans l'exemple qui est à l'écran, il s'agit de savoir si l'entreprise possède, loue ou gère, comme disait Joé dans la partie plus réglementaire, des sites d'activité qui sont proches des zones protégées, et si dans ce périmètre-là, il y a aussi des espèces protégées. Et donc, pour faire ce genre de travail, l'outil iBAT, ça reste une référence parce que c'est un outil qui agrège plusieurs données cartographiques de zones protégées et zones sensibles avec la liste rouge de l'IUCN, donc qui est une liste qui identifie les espèces en danger. L'image de gauche, c'est un exemple de sortie de cet outil. Donc, il y a le point rouge qui représente la zone d'activité et autour, la zone tampon qui est placée à défaut à 50 km de périmètre. Et à droite, on a une illustration avec le nombre d'espèces protégées présentes dans les périmètres identifiés.
Voilà, donc je fais une brève apparition normative parce que Justine, tout à l'heure, vous parle d'activités à proximité de zones sensibles et concrètement, ça veut dire quoi à proximité? Alors, c'est pas évident hein, comme question et la réponse, c'est ça dépend. Les ESRS ne donnent pas de définition. Par contre, on va trouver en fait des éléments de réponse dans une FAQ du règlement taxonomie climat publié par la Commission européenne. Et donc, la réponse qu'on nous donne dans cette FAQ nous indique en fait qu'il n'y a pas qu'il n'est pas possible de déterminer un rayon unique qui serait à considérer systématiquement. En fait, le rayon, il doit être défini de manière spécifique à la situation parce qu'il va dépendre à la fois de la nature de l'écosystème et des pressions exercées. Donc, à proximité, ça peut être 10 km comme simplement quelques centaines de mètres. Donc, par exemple, entre un champ sur lequel je vais pulvériser des pesticides un jour de vent et une plaine. Là, ce sera plutôt une plaine biodiversité sensible. Là, ce sera plutôt 10 km. Seulement quelques centaines de mètres pour la construction d'un bâtiment, par exemple. Donc, encore une fois, les règles d'or que je peux préconiser, c'est exercice du jugement et transparence.
Merci Joël pour ces précisions. Et, bon, il reste tout de même que grâce à la vision localisée, l'entreprise elle peut établir un niveau de risque associé à chaque site et donc prioriser à la fois ses actions de mitigation, mais aussi les efforts de restauration volontaire à faire sur les sites. Et donc tout ça pour but de protéger au maximum les réservoirs de biodiversité. Et donc, sur la slide suivante, Joao va aussi parler de comment prioriser les actions.
Donc, Là, on voulait vous présenter la question, c'est comment est-ce qu'on quantifie les impacts et comment est-ce que la quantification d'impact et le choix de métriques notamment joue un rôle clé dans la structuration de stratégie, encore une fois, dans la priorisation des actions, etc. Là, on avait l'exemple d'une entreprise pour laquelle le changement d'occupation des sols apparaissait comme un enjeu matériel, extrêmement matériel. Et donc, dans cet exemple, on a simplifié un peu la situation, mais on a pris les données de l'entreprise et classé toutes les occupations des sols dans sa chaîne de valeur sur trois catégories. On avait toute la partie juste de bureaux, les infrastructures extérieures, où il y en avait quand même pas mal. Et puis, l'entreprise, elle possédait pas mal de patrimoine aussi, beaucoup de surfaces naturelles qui étaient sous gestion par l'entreprise. Et donc, finalement, on voit qu'on a ces trois grosses typologies d'air, avec finalement, pour chacune des typologies, mais évidemment, pour les bureaux, une grosse perte de biodiversité, parce que quand on a un bureau, en général, c'est en zone urbaine, etc. Et des très faibles surfaces, une surface très stable, finalement, et donc un impact assez faible et stable. Et donc, on a pu directement identifier l'impact. C'est un enjeu, mais c'est un enjeu pas prioritaire. Et ensuite, on avait les deux autres catégories. Et donc là, on avait en fait finalement, par défaut, si on prenait juste la surface, la donnée surface, l'entreprise, elle aurait pu se concentrer uniquement sur ses aires sous gestion. Évidemment, c'est la plus grande surface. On voit que c'est quand même le plus gros impact. Donc, c'est quand même pertinent. Mais l'évolution finalement des impacts sur ces surfaces sous gestion était assez faible. Et le niveau de biodiversité finalement, quand on voit, en fait, on était sur 50% de biodiversité récente en moyenne sur ces surfaces. C'était beaucoup correct, on va dire, que toutes les infrastructures extérieures sur lesquelles on avait des grosses pertes de biodiversité, même si c'était une surface faible, et des grosses variations d'année en année, une grosse augmentation. Et donc là, en fait, on voit vraiment l'importance de raisonner pas juste, par exemple, en surface, mais de raisonner en impact. On voit apparaître ici, ce qu'on voit aussi dans la CSRD, c'est les indicateurs qui sont appelés les condition and extent, la condition de l'écosystème, l'intensité de l'impact et l'étendue. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui permet vraiment d'avoir une information suffisante pour structurer une stratégie biodiversité. Si on regarde juste la surface, on n'a pas une notion de l'intensité de l'impact qui s'applique dessus. Si on regarde juste l'intensité de l'impact, on n'a pas une notion de l'étendue sur laquelle cet impact s'applique. Et finalement, c'est la combinaison de ces deux indicateurs qui permet de structurer la stratégie biodiversité. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'on propose, encore une fois, c'est ce qu'on propose avec le GBS, mais c'est aussi ce qu'on conseille aux entreprises de faire, c'est-à-dire évidemment de reporter dans le cadre de la CSRD les métriques obligatoires, les mètres carrés par exemple, mais aussi de se poser la question, de se prendre un peu de recul et de se demander finalement, est-ce que ces métriques sont suffisantes pour structurer une stratégie, pour vraiment comprendre mes enjeux et structurer ma stratégie biodiversité, et vraiment prendre le temps de réfléchir non seulement de réfléchir aux pressions, réfléchir aux impacts, de les quantifier pour pouvoir derrière structurer leur stratégie biodiversité. Et c'est en général les indicateurs d'impact qui agrègent conditions et étendues des écosystèmes qui permettent vraiment d'informer une stratégie biodiversité. Et on passe à la question d'après.
Oui, donc un autre bénéfice à la quantification des impacts, c'est toujours l'aide à la décision, mais ici, on va l'appliquer sur la chaîne de valeur. On cherche vraiment à comprendre, sur cette slide, les impacts sur la chaîne de valeur et comment est-ce qu'on va les réduire. Donc, la première étape à gauche, c'était d'identifier les matières et les étapes clés de la chaîne de valeur qui génèrent des impacts sur la biodiversité et comprendre quelles pressions sont en jeu. Et ici, on a identifié deux catégories d'achats à risque pour ce client fictif. La première, c'est les commodités liées aux dérivés du bois et la deuxième liée à l'extraction minière. Et donc, on a décidé de faire un focus sur les produits dérivés du bois et précisément du caoutchouc avec, sur la partie plutôt à droite de l'écran, une comparaison d'intensité d'impact, de risque de production du caoutchouc selon les différents pays. Et donc, sans rentrer trop dans les détails du graphique, on voit quand même que l'entreprise, donc première information, elle se positionne un petit peu au-dessus du mix global monde. Et on voit aussi qu'il y a pas mal d'hétérogénéité parmi les impacts générés par la production de caoutchouc en fonction des différents pays. Et là, on voit un pays qui se dégage vraiment où l'impact est fort. Donc là, l'enjeu pour cette entreprise, c'est potentiellement soit exclure cette source d'approvisionnement ou alors savoir qu'il faut assurer une très forte traçabilité des produits en provenance de cette localisation et notamment cibler les enjeux de déforestation là, sur les produits liés au bois. Donc ça permet cette vision-là aux entreprises de faire un choix éclairé sur les fournisseurs dans la chaîne de valeur et engager une vraie gestion du risque basée sur les chiffres.
Merci beaucoup Justine. On a sauté rapidement pour des raisons de timing une slide spécifique sur l'identification, la définition d'objectifs, de targets sur la biodiversité, mais ça sera dans les slides. Si on passe du coup à la question suivante, donc toujours dans l'étape transforme de la stratégie biodiversité, on va maintenant vous parler d'analyse de résilience et de plan de transition. La raison pour laquelle on insiste sur l'importance de construire une stratégie biodiversité robuste, c'est bien parce que, comme on l'a expliqué au début, tout ça a un impact sur la résilience des entreprises. Évaluer cet impact, c'est donc, dans l'idée, se donner les moyens d'adapter ses pratiques pour assurer la performance de l'entreprise sur le long terme. Alors, comment on fait ça? Déjà, il faut savoir qu'une analyse de résilience, ça passe avant tout par une analyse de risque. Pour l'exemple présenté ici, l'entreprise s'était basée sur les recommandations de la TNFD et notamment le cadre d'analyse des risques préconisés. Donc, pour chacun des risques identifiés via l'approche LIP, elle s'est posée plusieurs questions. Par exemple, pour le premier risque lié à la réduction du rendement des cultures agricoles, elle s'est par exemple demandé quel est le niveau organisationnel impacté, sur quelle géographie se déroule le risque, en l'occurrence là c'était en Europe, quels sont les indicateurs à utiliser pour mesurer à la fois l'exposition de l'entreprise à ce risque et l'amplitude du risque. Et donc là on avait deux indicateurs identifiés, l'évolution des rendements pour l'exposition au risque et l'augmentation des coûts liés aux intrants pour l'amplitude du risque. Et sur cette base, l'entreprise avait estimé un niveau de risque élevé pour la poursuite de son activité. Construire une analyse de résilience, c'est donc réaliser cet exercice pour chacun des risques et opportunités liés à la nature. C'est en fait un peu répondre à la question dans quelle mesure les risques identifiés vont mettre en péril quelque part mon activité. Et ensuite, l'étape ultime, c'est sur la base de cette analyse de résilience, formaliser comment je compte faire évoluer mes pratiques et ma stratégie d'entreprise pour mieux prendre en compte mes impacts, dépendances, risques et opportunités, et du coup faire transitionner mon entreprise vers un modèle plus durable. Et ça, c'est ce qu'on appelle un plan de transition. Petit rappel ici, ce n'est pas obligatoire pour l'instant selon la CSRD. Ce n'est pas obligatoire du tout. Ce sujet en particulier, du plan de transition, on n'a pas d'exemple spécifique à vous partager pour la simple et bonne raison que le marché n'en est pas encore là aujourd'hui en termes de maturité sur les sujets biodiversité. Au fur et à mesure que le sujet prend de l'ampleur, il y a des outils et des méthodes qui commencent quand même à émerger. La TNFD, évidemment, qui donne une première base intéressante sur le sujet, et on peut par ailleurs s'inspirer du guide que l'AMF a rédigé pour les plans de transition climat. Dernière question qu'on voulait traiter avec vous rapidement aujourd'hui, le sujet de l'analyse des risques financiers. C'est une étape importante qui permet de pousser un peu plus loin l'analyse de résilience et la transformation du business model. L'idée, c'est de qualifier, voire de quantifier, et donc d'objectiver un maximum mon analyse de résilience pour apporter un éclairage financier plus clair sur mes choix stratégiques en lien avec la biodiversité. C'est ce qui finalement me permettra à terme de dire « cette nouvelle pratique me coûte tant, mais elle me permettra d'éviter tant dans le futur ». Comment on fait? Déjà, on peut commencer par une analyse qualitative. C'est l'exemple qu'on vous a présenté ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour des questions de timing, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut assez facilement dérouler une analyse qualitative de ces impacts financiers. Et pour rappel, ce type d'analyse qualitative, c'est typiquement ce qu'attend la CSRD à partir de la deuxième année de reporting. Pour l'analyse quantitative, on a un peu plus de temps et c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, il y a peu de méthodologies qui sont développées sur le sujet. Clairement, le marché pour l'instant n'y est pas. Pour autant, il y a des développements qui sont en cours, encore une fois en s'inspirant fortement de méthodologies déjà développées, par exemple pour le climat, et adaptées à des sous-sujets de la biodiversité. Par exemple, on développe en ce moment chez PwC une analyse de l'impact financier des risques liés à l'eau pour un acteur du secteur bancaire. À suivre donc, en tout cas c'est sûr qu'on ne va pas s'ennuyer sur ce sujet biodiversité dans les années à venir. Pour information, on a compilé sur cette dernière slide quelques ressources utiles dans le cadre de la construction de votre stratégie biodiversité. Vous pourrez du coup y avoir accès si vous demandez l'accès aux slides après le webcast.
Merci beaucoup à tous les quatre. Nous allons maintenant passer à la session de Q&A. Alors, on a très peu de temps et on a énormément de questions. On n'aura malheureusement pas le temps de tout traiter. Là, on va faire au mieux pour avoir quelques questions prises en bloc. On vous donnera des réponses ultérieurement. Et bien sûr, on reste disponible après le webcast pour discuter de tous ces sujets. La slide suivante pour les collaborateurs de PwC, vous avez le code Attend qui s'affiche. Alors, une première question qu'on nous a posée sur les dépendances. Est-ce que vous pourriez partager des exemples concrets de dépendances aux services écosystémiques et comment les mesurer? Alors, Justine Ojoao, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, merci Émilie. Donc très rapidement, des exemples concrets de dépendance aux services écosystémiques, il y en a énormément. On en a cité pas mal au début. On a des dépendances assez évidentes, comme par exemple la pollinisation, la dépendance des services, enfin de l'agriculture aux services de pollinisation. D'autres moins flagrants, par exemple la dépendance à la diversité génétique, la résistance des cultures aux maladies, ou la dépendance à la biodiversité microscopique pour la régénération des sols, ou la dépendance aux services de l'eau. Et il n'y a pas de manière générique de mesurer quantitativement une dépendance, en fait. Enfin, ça a pas de, parce que quelque chose de vraiment physique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déterminer un niveau de dépendance, ce qui fait donc un niveau bas, moyen, élevé, hein, et puis le traduire en une évaluation quantitative du risque sur la base d'indicateurs spécifiques à la situation. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la pollinisation, on peut, pour une culture spécifique, utiliser des études pour estimer la perte de production qui est associée à un déclin de X% de la population de pollinisateurs et donc quantifier le risque financier associé. Donc, ce n'est pas une évaluation, enfin, ce n'est pas une méthode de quantification générique. On va plutôt essayer de quantifier le risque sur base des méthodes ad hoc.
Sur un sujet qui est particulièrement important sur la biodiversité concernant la chaîne de valeur. Donc, quelles sont les attentes en matière de risques et d'opportunités pour les entreprises qui n'ont pas d'opération d'extraction ou de production? Ou une autre aussi qui s'y rapproche, quelles sont les bonnes pratiques en matière d'intégration de la chaîne de valeur et notamment des fournisseurs dans une stratégie biodiversité?
Oui. Ok. Bah, les bonnes pratiques sur ça, c'est vraiment les mêmes que ce qu'on a pu créer pour le carbone. C'est-à-dire qu'on est dans une économie de marché, donc les fournisseurs de matières premières, globalement, ils sont drivés par la demande. Et donc, une entreprise, elle a une part importante de responsabilité dans les impacts qui sont engendrés par ce qu'elle achète. Donc, toute entreprise, comme on l'a vu, se doit d'avoir une analyse de matérialité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et idéalement, une évaluation quantitative des impacts de sa chaîne de valeur pour pouvoir vraiment les comprendre et travailler avec ses fournisseurs pour les faire évoluer leurs pratiques. La complexité du sujet biodiversité fait que pour la biodiversité, ce sera tout particulièrement important de vraiment travailler main dans la main avec les fournisseurs pour les aider dans leur transition et pour justement faire en sorte que les choses bougent parce que le chemin à parcourir est encore assez long.
Merci beaucoup, Joao. Une toute dernière question, celle-ci, elle est pour Sophie Rosso, puisque ça résonne particulièrement pour PwC, sur le secteur des services. Est-ce que tu peux donner des exemples pour les entreprises de services, car il est plus souvent difficile d'aborder la question de la biodiversité sur ce secteur?
Oui, bien sûr. Merci, Émilie. Du coup, rapidement, c'est sûr que le sujet n'est pas le même pour une entreprise dans le secteur de l'industrie et dans le secteur des services. Pour autant, en tant qu'entreprise de services, on a quand même évidemment des impacts, et notamment via notre chaîne de valeur, et c'est lié à ce que disait Joao juste avant. On est bien placé du coup pour en parler chez PwC parce qu'on a justement terminé début 2024 notre étude d'empreinte biodiversité avec le GBS. Et c'est une étude qui nous a permis de tirer plusieurs enseignements. Déjà, ça a validé que la grande majorité de notre empreinte biodiversité est donc dans notre chaîne de valeur amont. Ensuite, que le premier facteur de pression auquel contribue notre activité, c'est l'utilisation des sols. Et enfin, que la source de cet impact est principalement liée à la restauration de nos équipes. À partir de là, comme on l'a expliqué pendant le webcast, ça nous permettra d'adapter les actions qu'on veut mettre en place pour limiter notre impact sur la biodiversité. Et par ailleurs, un point important, c'est qu'en tant qu'entreprise de service, notre impact il vient aussi de notre chaîne de valeur aval, qui est plus difficilement mesurable. Et donc concrètement, ça impose quand même de se poser la question, quels sont les impacts de ce que j'aide en tant qu'entreprise de service à réaliser ? Côté PwC, c'est notamment ce qui nous a poussé à formaliser l'un de nos objectifs validés par Act for Nature, et qui est donc former 100% de nos collaborateurs sur le sujet et développer l'intégration de la biodiversité dans nos offres.
Merci beaucoup, Sophie. Malheureusement, on arrive à la fin de notre temps imparti. Un grand merci à tous nos intervenants qui vont s'afficher. Merci vraiment à tous pour ces clarifications. On aurait eu besoin de plusieurs journées complémentaires. Merci à tous de votre attention. Si vous pouvez rester une minute pour répondre au questionnaire de satisfaction, on vous en remercie. Nous sommes bien sûr à votre disposition après ce webcast. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et à très bientôt sur ces webcasts et rendez-vous du reporting de durabilité. Au revoir, merci.
Merci beaucoup. Au revoir.